Radio Octopi. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables qui se focalise à nouveau sur les rôles des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoku. Polydor Basunga s'occupe de la prise de son sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros.
Radio Capi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, droit et citoyenneté mardi, parité et famille mercredi, écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de rester branché à Radio Capi, la fréquence de la paix. Les forêts du bassin du Congo constituent l'un des plus importants massifs des forêts tropicales qui demeurent sur la planète. Cette région se hisse au rang de deuxième plus grande forêt pluviale de la planète derrière l'Amazonie. Quelles sont les conventions internationales et régionales portant protection des forêts du bassin du Congo? Quels sont les bénéfices que tirent les populations de ces massifs forestiers? Quels sont les bénéfices que tirent les populations locales de ces massifs forestiers? Que faut-il faire pour améliorer la gouvernance forestière dans les pays qui partagent les massifs forestiers du bassin du Congo? Tentative des réponses au cours de ce numéro des Codes du développement. Nous entamons notre émission par la déclaration de M. Valentin Ngobo, président de l'association des pygmées de l'Okolama dans la province de l'Équateur en RDC. Il interpelle les Nations Unies et les gouvernements congolais pour la mise en place des mécanismes pouvant aider à l'application des conventions et des lois en faveur des peuples autochtones vivant dans les forêts du bassin du Congo. Nous allons suivre sa déclaration.
Dans la nouvelle déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, ils ont un article dans le sujet, ils allaient consacrer la liberté à peuple autochtone. Ils ont consacré un gamaté à plus technique. Ils ont un peuple autochtone. Ils allaient les Nations Unies dans le monde, dans le peuple Oyo. Le gouvernement aussi ratifié quand il finit ma camou dans la déclaration non souane. Alors, c'est une réalité. Va prendre en compte le goût à Moutounos. Même la situation politique de la pays, va accompagner du son à casse, va sortir à la peuple autochtone qui a été dans l'organisation gouvernementale, mais ils ont dans la structure politique et appuyé par les institutions et la Nations Unies. Le goût à la tenir des bonnes et tout ça. Pourtant, on va obtenir la terre, la vote et la campagne électorale. Alors, appuyer Bango matériellement, financièrement et techniquement. Alors, ce que j'ai dit, quand j'ai dit, je me dis, ça l'est bon. Non, biso peut toujours appuyer. Puisque, quand la biso va souffrir, l'une n'a pas eu. Mais tout ça, vous avez aidé.
Nous venons là de suivre la revendication de M. Valentin Ngobo. Nous rappelons qu'il est le président de l'association des pygmées de l'Okolama qui demande aux Nations Unies de passer aux actions concrètes pour la jouissance de leurs droits et avantages sociaux des peuples autochtones. Le professeur Jean-Paul Seigobé pense effectivement que les Nations Unies restent un acteur incontournable dans la lutte contre les changements climatiques. Les intérêts de la population locales dont la survie dépend des ressources issues de ces massifs forestiers doivent être prises en compte au cours des négociations régionales et internationales.
Les Nations Unies restent un acteur incontournable sur cette question Et d'ailleurs, ils l'éprouvent justement aujourd'hui avec le leadership qu'elles occupent en ce qui concerne les changements climatiques. Cependant, partant de l'échec des négociations pour obtenir une convention mondiale sur les forêts, je pense que les Nations Unies devraient changer de stratégie. Il est vrai que chaque État va négocier en mettant en avant ses intérêts, mais la question des forêts est essentielle et a des effets directs sur d'autres phénomènes naturels qui frappent l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, nous parlons des changements climatiques, on parle de la désertification. Effectivement, les forêts jouent un rôle important. Les intérêts des peuples riverains des forêts devraient être aussi l'unité de mesure de toutes ces négociations. Donc je pense que les Nations Unies doivent accompagner les États dans l'adoption de législations internes, mais que ces législations ne soient pas dictées par des intérêts extérieurs. Évidemment, ces législations doivent tenir compte, doivent être contextualisées, inculturées, mais en même temps, dynamique interne, que nous devons avoir une législation internationale qui pourrait évidemment contraindre le comportement de plusieurs États. Et là, absolument, les Nations Unies doivent jouer un rôle important. Je ne vois pas une convention internationale en ce qui concerne les forêts qui ne pourrait pas s'inscrire dans le cadre des Nations Unies. Et dans le cadre du bassin du Congo, je pense que les Nations Unies accompagnent déjà les six États dont j'ai parlé, les six États forestiers, mais y compris les autres États que j'ai cités, l'Angola, le Burundi, le Rwanda, la Zambie, la Tanzanie. Et ce rôle reste appréciable, même si on pense qu'il faudrait que les Nations Unies amplifient encore ce rôle sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan financier, sachant que les États du bassin du Congo ont des moyens limités en ce qui concerne cette question de prendre l'environnement.
Quel état de lieu faire sur la protection des forêts du bassin du Congo? Le professeur Ursile Lelo Dimakungu, directeur du laboratoire de recherche interdisciplinaire des droits et du développement durable basé à l'université de Kisangani, répond.
Il y a à un certain moment des avancées, mais aussi d'autres moments, il y a beaucoup de reculs. Alors, s'il faut faire le progrès, faire un constat sur le progrès notable observé dans le pays du bassin du Congo, nous pouvons constater que 11% du territoire du bassin du Congo sont classés en aire protégée, avec près de 10 millions d'hectares de forêt qui sont gérés selon le plan d'aménagement et avec 4,5 millions d'hectares de concessions forestières qui sont certifiés. Et aussi, on note quand même un certain progrès parce que le déclin des populations des grands fauves charismatiques a été renversé dans quelques paysages identifiés comme aires protégées prioritaires pour la conservation de la biodiversité. Alors, au-delà de ça, je vous avais déjà dit que c'est le deuxième secteur qui contribue dans le cadre de promotion de l'emploi, spécialement au Cameroun et en République centrafricaine, mais également au Congo-Brazzaville, alors qu'en République démocratique du Congo, la situation est faible. Le secteur forestier ne contribue pas à plus de 2% dans le PIB. Et il y a un peu quelques contrastes séparés que l'on peut observer. Mais aussi, parmi les progrès, les différents pays se sont dotés de leur propre politique forestière et d'autres sont en voie de mettre en place, comme la République démocratique du Congo. La plupart des pays sont dotés de codes forestiers de dernière génération avec les contraintes pour la mise en place des plans d'aménagement pour la gestion durable, des obligations d'élaboration d'études d'impact environnemental, la mise en place de nouveaux codes de conservation des natures avec des approches intégrées et des participations communautaires, la promotion des forêts des communautés locales et aussi la mise en place de stratégies nationales Red Cliff et aussi quelques efforts allant dans la mise en œuvre de l'APV FLEC, l'accord de partenariat volontaire pour renforcer la gouvernance et la légalité dans les secteurs forestiers avec l'Union européenne et aussi dans le cadre du bassin forestier du Congo, le pays de la Commission des forêts d'Afrique centrale dans le cadre du bassin forestier du Congo ont eu à organiser la première coopération CITID en essayant de regrouper les trois bassins forestiers pour essayer de réfléchir et avoir une position stratégique parce que ces trois bassins forestiers constituent les 80% des forêts tropicales de la planète, à savoir le pays du bassin d'Amazonie, le pays du bassin du Congo, dont on est en train d'en débattre, mais également il y a un troisième bassin qui se situe en Asie du Sud qu'on appelle Bornéo-Mékong.
Pour ceux et celles qui ne savent pas, sachez que les forêts du bassin du Congo s'étendent sur 6 pays, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. La déforestation pour satisfaire à la forte demande des bois à énergie, l'industrie du bois d'œuvre et l'émergence des grandes entreprises agro-industrielles, notamment au Cameroun et au Gabon, mettent en péril les forêts du bassin du Congo, ajoute le professeur Jean-Paul Sehigobé. Nous rappelons qu'il est expert en droit de l'environnement.
Je pense que les forêts du bassin du Congo font l'industrie du bois peu scrupuleuse et des grands projets agro-industriels dévastateurs. Ce n'est plus un secret. La culture des palmiers à huile, des veillas, d'eucalyptus, des cannes à sucre, notamment au Cameroun, au Congo-Brazzaville, au Gabon. Vous allez voir que effectivement cette industrie porte à la forêt, dérange ou contribue à la déforestation. Au niveau de la RDC, la demande du bois de chauffe et un charbon de bois a stimulé aussi la déforestation. Et vous n'avez qu'à voir la triste du parc national des Virunga et ailleurs. En ce qui concerne toujours les points moins bons, vous avez l'exploitation des ressources. Hein, le bassin du Congo est riche en bois, c'est vrai, en pétrole aussi et en minéraux tels que les diamants, l'or et le coltan. Bah, nous le savons tous que une portion importante et croissante du bassin est accordée aux concessions des sociétés minières et forestières. Et ces activités provoquent plusieurs conséquences indirectes et directes. Indirectes, notamment l'installation de nouveaux habitants, par exemple, qui exploitent les ressources de la forêt pour y vivre. Mais direct aussi parce qu'on porte atteinte au bois. On coupe le bois pour, par exemple, une passion domestique. Et donc, bref, l'exploitation au niveau de nos pays, que ce soit en RDC ou ailleurs, met en péril les forêts du bassin du Congo. D'autres problèmes, c'est notamment le trafic illégal d'espèces. Hein, l'extinction des sauvages dans le bassin, notamment avec le commerce de la viande de brousse, n'est pas un secret. Il ne passe pas un seul jour où vous ne voyez pas, soit en RDC, au Gabon ou ailleurs, le trafic d'ivoire. Mais les ivoires, lorsqu'on les a, c'est parce qu'on a eu à tuer des éléphants, par exemple. Hein? Bon, il y a les groupes armés qui sont là, peut-être qu'on y reviendra. Ces groupes armés jouent un rôle néfaste, dévastateur au niveau des forêts. Vous avez aussi l'équilibre qui est mis en péril justement par l'industrie du bois, je l'ai dit. Vous verrez que il y a des rapports qui ont montré que en 8 ans ou disons 10 ans, plus de 15 millions d'hectares ont été affectés à l'exploitation forestière en toute illégalité. C'est un vrai problème. Un vrai problème.
Les conflits armés dans la région des Grands Lacs africains ont aussi un effet destructeur sur les écosystèmes des forêts du bassin du Congo, soutient le professeur Ursule Lelo Dimakungu. Nous rappelons qu'il est directeur du laboratoire des recherches interdisciplinaires des droits et des développements durables basé à l'université de Kisangani.
Dans le contexte des droits de l'environnement ou de l'environnement en général, les conflits ont un effet destructeur. Au-delà des aspects que vous venez de développer, il y a un aspect important, c'est des aires protégées. La plupart de nos aires protégées sont devenues des réservoirs des seigneurs de guerre. C'est de là que les rebelles ont trouvé refuge avec des conséquences tout à fait considérables sur la menace de ces aires protégées et aussi l'exploitation illégale des minerais, l'exploitation illégale de bois et autres ressources naturelles sont tristement observées dans ces différents sites que nous venons de citer et en violation de la loi et en violation des enseignements juridiques internationaux. L'approche que les Nations Unies ont pu promouvoir avec les États de la région était de voir dans quelle mesure, dans le contexte des tensions politiques, comment mobiliser l'intégration régionale comme un moyen de pacification. C'est ainsi que dans le cadre des déclarations de Dar es Salaam, il en est suivi la mise en place des traités intitulés Pacte de paix, de stabilité et de développement dans la région des Grands Lacs avec des protocoles sur la protection de l'environnement, de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et aussi sur la lutte contre l'exploitation illégale des minéraux, la nécessité de mettre en place un certificat CIRGEL pour permettre de faire la différence entre les minéraux ou les ressources naturelles produites d'origine légale et ce qui n'est pas produit légalement ou ce qui est produit en violation de la loi. Et à ce niveau, on peut noter un certain progrès qui est en train d'être réalisé grâce à l'appui des Nations Unies et grâce aussi à l'appui de la mission, de la présence de la mission des Nations Unies au Congo.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, Droit et Citoyenneté mardi, Parité et Famille mercredi, Écho du Développement jeudi, 100% Jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines Étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Si vous venez de vous joindre à nous, sachez que vous êtes en train de suivre Écho du Développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et de développement durable qui s'intéresse à nouveau au rôle des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo. La Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, citait son sigle, doit être respecté dans les pays qui partagent les forêts du bassin du Congo, indique le professeur Dieudonné Musibono, conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et des développements durables.
Vous savez que ces espèces qu'on ne peut pas exporter. Parce que quand vous vous référez à CITES, il y a trois catégories d'espèces. Il y a les espèces strictement protégées, dont le commerce est strictement interdit. C'est l'annexe A, ou bien U. Et puis il y a des espèces qui sont également protégées, mais partiellement. Donc le commerce doit faire partie des quotas. Donc vous allouez des quotas annuels pour voir quelle quantité vous allez exporter. Là, c'est l'annexe B. Pour la troisième catégorie, là, ce sont les espèces vulgaires qui ne jouissent pas d'une protection particulière. Mais là, c'est au niveau international. Mais au niveau national, toute espèce animale et végétale doit être soumise à des règles de prélèvement, à des règles de gestion. Sinon, ça devient chaotique parce que une espèce qui n'est pas aujourd'hui sur l'annexe 1 ou 2 peut le devenir demain. Si on a mal utilisé, à un moment donné, on se rend compte que la disparition d'une espèce en péril il faut la protéger intégralement. Pour moi, il faut que les capacités de surveillance du ministère de l'Environnement soient renforcées pour mettre fin à ce commerce illicite. D'ailleurs, nous parlons de l'érosion de la biodiversité. L'une des menaces majeures de la biodiversité, c'est l'érosion, c'est la contrebande, les marchés noirs. C'est ce qui fait que certaines espèces ont disparu chez nous. Par exemple, les rhinocéros blancs du Nord. Maintenant, il n'y en a plus.
On n'en trouve plus, oui.
Il n'y en a plus parce que, d'abord, sa corne était
très recherchée.
Très recherchée, surtout en Asie du Sud-Est, où un kilo revenait à 100 000 dollars, un kilo de corne. Et quand vous prenez un animal adulte qui porte deux cornes, le total c'est 6 kilos, les deux cornes donnent 6 kilos, ça fait 600 000 par bête. Et les braconniers s'arrangeaient pour venir organiser les campagnes dans notre part, là-bas, dans le Maïko. Ils venaient là-bas, ils venaient là-bas des animaux et ils soudoyaient les gardes. Parce que l'élément de garde, tu as 150 ou 200 dollars par mois. Tu as même des arriérés de paiement. Quand un braconnier lui tend 5-10 000 dollars, il devait dire pour leur monter dans ce cas les animaux.
Quel bilan faire alors sur les actions des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo? Suivez l'avis du professeur Jean-Paul Segui-Hobé. Nous rappelons qu'il est expert en droit de l'environnement.
On peut bien critiquer, mais quand on voit comment cette machine est lourde, quand on voit les résistances des États, il faut saluer quand même le travail fait par les Nations Unies. Et en l'occurrence, le travail abattu par son agence qui a son siège en Afrique, à Nairobi. Je pense que l'on ne pourra évidemment pas se satisfaire de ce qui se présente aujourd'hui en ce qui concerne la protection de l'environnement, mais en même temps, il faudra pas être nihiliste en pensant que rien n'a été fait, que tout doit être repensé à partir de zéro. Non, je pense que cela passe par le recadrage des stratégies onusiennes. La mobilisation de beaucoup de moyens, il faut absolument beaucoup de moyens, essayer sur le plan diplomatique de convaincre le plus possible les États et les États qui ont une grande influence sur la scène internationale. Mais bien sûr, il faut absolument arriver à des normes contraignantes. Sans les normes, on ne saura pas évidemment obtenir aussi des résultats conséquents. Et je pense que c'est une urgence parce que la plupart des règles de protection de l'environnement servent d'une normativité faible, de la soft law ou de ce qu'on appelle le droit vert, le droit mou. Et les Nations Unies, en célébrant les 75 ans d'existence, doivent rappeler la question environnementale.
Il faut également préciser que plusieurs financements des programmes concernant la protection et l'utilisation rationnelle des ressources des forêts du bassin du Congo passent par les agences des Nations Unies, ajoute le professeur Ursile Lelo Dimakungu. Nous rappelons qu'il est le directeur du laboratoire des recherches interdisciplinaires des droits et des développements durables basé à l'université de Kisangani.
Les Nations Unies jouent un rôle clé, je dirais même des pivots, parce que la plupart d'accompagnements techniques, la plupart des financements passent par les Nations Unies à travers ces agences spécialisées, notamment le CNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, mais également par son programme sur l'agriculture, la FAO. Mais en plus de ça, les Nations Unies s'est dotée d'un programme sur l'environnement et tout ça. Ce sont des appuis à la fois techniques, des appuis financiers qui permettent progressivement aux États d'aller un peu progressivement vers la résilience.
La lutte contre la pauvreté des communautés locales reste le défi majeur dans les pays qui partagent les forêts du bassin du Congo. Selon le professeur Jean-Paul Segui-Hobé, nous rappelons qu'il est spécialiste en droit de l'environnement.
Entre autres, les défis en ce qui concerne le bassin du Congo, c'est l'érosion de la pauvreté. Vous avez cette richesse de forêts, mais en même temps, vous avez cette grande pauvreté des populations riveraine des forêts. C'est un grand défi. Vous avez aussi le défi des changements climatiques, nous en parlions tout à l'heure, et surtout le transfert de leurs conséquences d'une génération. Si on ne gère pas correctement cette question, mais c'est des répercussions sur plusieurs années, et les générations futures vont en paraître, à en pâtir du moins. Vous avez aussi, je dirais, le défi de la durabilité de la gestion. Parce que souvent, on parle de forêts, la gestion, la conservation, mais il y a la dimension de la durabilité. Hein, je pourrais parler d'une durabilité politique. Il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des principes de politique forestière conséquentes, une durabilité économique, hein, écologique, socio-culturelle, je parlais là, une durabilité spatiale. Hein, comment transformer les villages en villes, le rapport entre ville et village, c'est très très important. On ne construit pas une ville en désordre. Quand je vois comment les villes se développent chez nous, et en l'occurrence Kinshasa, j'ai trop peur par rapport aux questions environnementales. Et il faudrait effectivement que cette durabilité soit accompagnée. Il faut qu'on lui assigne un rôle, notamment celui de créer des conditions d'une double solidarité. Moi, je considère qu'il faut une double solidarité, une solidarité horizontale à l'égard des plus nécessiteux du moment. Il faut qu'il y ait cette solidarité lorsque on doit dire qu'il faut parler des forêts, prendre, obtenir ou gérer les recettes produites par la gestion de ces forêts, mais aussi une solidarité verticale qui doit exister entre les générations. Mais c'est toutes ces solidarités doivent s'inscrire dans la durée.
Dans le cadre de la réforme, les Nations Unies doivent mettre en place une agence uniquement réservée aux questions de la protection de l'environnement et des projets de développement durable, comme c'est le cas pour les programmes des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle, les fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, les fonds des Nations Unies pour l'enfance et UNICEF, conclut le professeur Ursile Lelodi Makungu. Nous rappelons qu'il est le directeur du laboratoire de recherche interdisciplinaire des droits et des développements durables basé à l'université de Kisangani.
Dans tous les secteurs de la vie, il y a des programmes, il y a des agences clés des Nations Unies qui s'occupent des secteurs. Par exemple, pour les enfants, il y a l'UNICEF qui est un organisme spécialisé. Pour ce qui concerne la santé, il y a l'OMS. Mais pour ce qui concerne l'environnement, tout est réduit à un programme. Et pourtant, l'environnement, c'est un secteur très sensible et avec beaucoup de ramifications et de complexités.
Oui, professeur, s'il vous plaît, mais il existe les programmes des Nations Unies pour l'environnement, PNUE en sigle.
Oui, il existe le PNUE qui est juste un programme, mais il faudrait doter l'environnement d'une agence au même titre que les autres agences, et au sein de cette agence, il peut y avoir plusieurs programmes comme nous en avons dans le cadre de l'ONU-SIDA, il y a plusieurs programmes dans le cadre de l'agriculture, il y a plusieurs programmes au sein d'un organisme ou d'une agence spécialisée des Nations Unies. Alors, voilà pourquoi nous déplorons un peu ces déséquilibres. De l'autre côté, il y a des agences qui ont des facilités d'action et pour ce qui concerne un secteur aussi sensible que l'environnement, qu'il y ait tout simplement un programme. Et quand on gère un programme et quand on gère une agence, il y a des réalités différentes. Et je crois que les Nations Unies gagneraient en mettant en place une agence qui est d'avoir un programme compte tenu de l'importance et aussi de la complexité du secteur.
C'est par ici que nous bouclons ce magazine consacré au rôle des Nations Unies dans le cadre de la protection des forêts du bassin du Congo que vous a présenté Tati Mapoku. Polydor Basunga était à la prise des sons sous la coordination et la supervision de Jean-Marc Matouaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro de Code du Développement le jeudi prochain. À bientôt.